Le père Martin. Vous ne connaissez pas le père Martin. Quoiqu'il ne soit qu'un pauvre cordonnier, il ne loge pas dans une mansarde. Son atelier, son salon, sa chambre à coucher et sa cuisine sont tous réunis dans une échoppe de bois qui fait l'angle de la place de Lanche et de la rue des Martégales au centre du vieux quartier de Marseille. C'est là qu'il vit en philosophe, ni trop riche ni trop pauvre, ressemelant tout le quartier, car depuis que ses yeux ont vieilli, le bonhomme ne travaille plus dans le neuf. Si vous ne le connaissez pas, les pescaïres, c'est-à-dire les pêcheurs du quartier Saint-Jean, le connaissent bien, et les revendeuses du marché qui est sur la place, et les gamins de l'école communale qui passent comme un essaim devant sa porte lorsque 4 heures sonnent à l'évêché. Il leur a cousu des pièces à tous, il sait où le soulier les blesse. Les ménagères n'ont de confiance qu'en lui pour mettre des talons solides aux chaussures de leur garnement, qui écule en 15 jours les souliers les mieux confectionnés. Le père Martin, depuis quelque temps, s'est fait la réputation d'être dévot. Non qu'il craigne le mot pour rire, mais depuis qu'il va aux conférences, comme on appelle ces réunions, où l'on chante des cantiques et où l'on parle du bon Dieu, il est tout changé. Il ne travaille ni moins ni plus mal, au contraire. On ne le voit plus au café des Argonautes comme autrefois. Il a un gros livre qu'on lui voit lire souvent, quand on regarde par le petit vitrage de son échoppe. Il paraît beaucoup plus heureux qu'il ne l'était auparavant. Il a eu des malheurs, le père Martin. Sa femme est morte il y a plus de 20 ans. Son fils, parti comme matelot à bord du brick Le Phocéen, n'a plus reparu depuis 10 ans. Quant à sa fille, il n'en parle jamais. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle est devenue, une ombre passe sur son front, il ne répond qu'en secouant la tête. Aussi, même quand il allait au café, après la journée, faire un piqué avec les camarades, le vieux cordonnier était-il rarement d'une gaieté parfaite. Maintenant, avons-nous dit, il paraît plus heureux. Son gros livre semble en être la cause. C'est la veille de Noël. Il fait au dehors un temps froid et humide, mais l'échoppe du père Martin est claire et bien chauffée. Il a fini son travail et mangé sa soupe. Son petit poil rond fait, lui, assis dans un bon fauteuil de paille, ses besicles sur le nez, se tient près de la table et lit. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 7. Ici, le lecteur s'arrête pour réfléchir. « Point de place, dit-il. Point de place pour lui ?» Il regarde alors sa chambrette, étroite et propre dans sa pauvreté. « Il y aurait eu de la place pour lui, ici, ajoute-t-il, s'il y était venu. Quel bonheur de le recevoir. Je me serais gêné, bien sûr. Je leur aurais donné toute la place. Point de place pour lui. Oh, que ne vient-il m'en demander une, à moi ? Je suis seul, je n'ai personne à qui penser. Chacun a sa famille et ses amis. Qui se soucie de moi sur la terre ? J'aimerais bien qu'il vînt me tenir compagnie. » Si c'était aujourd'hui le premier Noël, si ce soir le Sauveur devait venir au monde, s'il choisissait mon échoppe pour y entrer, comme je le servirais, comme je l'adorerais, pourquoi ne se montre-t-il plus aujourd'hui comme il le faisait autrefois ? Que lui donnerais-je ? La Bible dit bien ce qu'apportèrent les mages, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais je n'ai rien de tout cela. Ils étaient riches, ces mages. Mais les bergers, que lui donnèrent-ils ? Cela n'est pas dit. Ils n'eurent peut-être pas le temps de rien apporter. Ah, je sais bien, moi, ce que je lui donnerais. Et le père Martin, au milieu de toutes ses pensées plus ou moins incohérentes, se leva et tendit la main vers une étagère où se trouvaient 2 mignons petits souliers soigneusement enveloppés, 2 souliers de nourrisson. « Voilà, dit-il, voilà ce que je lui offrirai. Mon chef-d'œuvre, c'est la mère qui serait contente. « Mais à quoi pensais-je » reprit-il en souriant. « Vraiment, je radote. Est-il possible que je m'imagine des choses pareilles, comme si le Sauveur avait besoin de mon échoppe et de mes souliers ?» Le vieillard s'enfonça dans son fauteuil et continua ses réflexions. La foule devenait de plus en plus nombreuse dans les rues à mesure que la soirée s'avançait. Des bruits de réveillon commençaient à se faire entendre, mais le père Martin ne bougeait pas, mais il est probable qu'il s'était endormi. « Martin, dit une voix douce tout près de lui. « Qui va là ?» cria le cordonnier en sursaut. Mais il eut beau se tourner vers la porte, il ne vit personne. « Martin, tu as désiré me voir. Eh bien, regarde dans la rue, demain, depuis l'aurore jusqu'au soir. Tu me verras passer un moment ou l'autre. Efforce-toi de me reconnaître, car je ne me ferai point connaître à toi. » La voix se tut. Martin se frotta les yeux. Sa lampe s'était éteinte, le pétrole ayant manqué. Minuit sonnait à toutes les horloges. Noël était venu. « C'est lui !» se dit le vieillard. « Il a promis de passer devant mon échoppe. Peut-être était-ce un rêve ? N'importe, je l'attendrai. Je ne l'ai jamais vu, mais n'ai-je pas admiré son portrait dans toutes les églises ? Je saurais bien le reconnaître. » Là-dessus, Martin gagna son lit et longtemps encore repassa dans son esprit les étranges paroles qu'il avait entendues. Longtemps avant le jour, la petite lampe du cordonnier était allumée. Il remit du charbon dans son poêle qui n'était pas encore éteint et se mit en devoir de préparer son café. Puis il se hâta de ranger sa chambre et vint se placer enfin près de la fenêtre pour guetter les premières lueurs du jour et les premiers passants. Peu à peu, le ciel s'éclaira, et Martin ne tarda pas à voir paraître sur la place le balayeur de rue, le plus matinal de tous les travailleurs. Il ne lui accorda qu'un regard distrait. Il avait en vérité bien autre chose à faire qu'à regarder un balayeur de rue. Cependant, il paraissait faire froid au dehors, car la vitre se couvrait constamment de buée, et le cantonnier, après avoir donné quelques vigoureux coups de balai, ne tarda pas à éprouver le besoin de se réchauffer par un exercice plus énergique en battant des bras de toutes ses forces et en frappant le sol, tantôt d'un pied, tantôt de l'autre. « Le brave homme, se dit Martin, il a froid tout de même. C'est fête aujourd'hui, mais non pas pour lui, si je lui offrais une tasse de café, et il frappa contre la vitre. » Le balayeur tourna la tête, vit le père Martin derrière sa fenêtre et s'approcha. Le cordonnier ouvrit la porte. « Entrez, dit-il, venez vous réchauffer. »« C'est pas de refus, merci. Quelle tame de chien, on se croirait en Russie. »« Voulez-vous accepter une tasse de café ?» dit le père Martin. « Ah, par exemple, voilà un brave homme. Avec plaisir, pardi. Vaut mieux tard que jamais pour faire son petit réveillon. » Le cordonnier servit son hôte à la hâte, puis s'empressa de retourner vers sa fenêtre et de sonder la rue et la place de tous côtés pour voir s'il n'était passé personne. « Qu'est-ce donc que vous avez regardé dehors ?» lui dit enfin le cantonnier. « J'attends mon maître, » répondit Martin. « Votre maître ? Vous travaillez donc en magasin ? La belle heure pour venir voir ses ouvriers. D'abord, c'est fête pour vous aujourd'hui. »« C'est de notre maître que je parle, » reprit le vieux cordonnier. « Ah ! Un maître qui peut venir à toute heure et qui m'a promis de venir aujourd'hui. Vous ne savez pas son nom ? C'est Jésus. » J'en ai entendu parler, mais je ne le connais pas. Où demeure-t-il ? Le père Martin se mit alors en quelques mots à raconter au balayeur de rue l'histoire qu'il avait lue la veille, en y ajoutant quelques détails. Il se tournait vers la fenêtre tout en parlant. « Et c'est lui que vous attendez ?» dit enfin le cantonnier quand il sut de quoi il s'agissait. « M'est avis que vous ne le verrez pas comme vous le croyez. Mais c'est égal, vous me l'aurez fait voir à moi. » « Vous me prêterez votre livre, monsieur... »« Martin, » dit le cordonnier. « Monsieur Martin, et je vous garantis que vous n'aurez pas perdu votre temps ce matin, quoi qu'il fasse à peine jour. Merci et au revoir. » Et le cantonnier s'éloigna, laissant le père Martin seul de nouveau, le front collé contre la vitre. Quelques ivrognes attardés passèrent, mais le vieux cordonnier ne les regarda seulement pas. Puis arrivèrent les marchandes avec leurs petites charrettes. Il les connaissait trop bien pour faire grande attention à elles. Mais au bout d'une heure ou deux, ses regards furent attirés par une jeune femme, misérablement vêtue, portant un enfant dans ses bras. Elle était si pâle, si décharnée, que le cœur du vieillard s'émut. Peut-être cela le fit-il penser à sa fille. Il ouvrit sa porte et l'appela. « Hé, dites donc !» La pauvre femme entendit cet appel et se retourna surprise. Elle vit le père Martin qui lui faisait signe d'approcher. « Vous n'avez pas l'air bien portant, ma belle !»« Ma belle » est la locution la plus fréquemment employée dans le vieux Marseille. Elle s'applique indistinctement aux poissardes de la Halle Vivo, aux blanchisseuses du lavoir public et à toutes les femmes, jeunes ou vieilles, riches ou pauvres, qui ont affaire dans ces quartiers-là. « Je vais à l'hôpital, » répondit la jeune femme. « J'espère bien qu'on m'y recevra, avec mon enfant. Mon mari est sur la mer, et voilà 3 mois que je l'attends. »« Comme j'attends mon fils, » pensa le cordonnier. « Il ne revient pas, et cependant, je n'ai plus le sou, et je suis malade. » Il faut bien que j'aille à l'hôpital. Pauvre femme, dit le vieillard attendri, vous mangerez bien un morceau de pain en vous réchauffant, non? Au moins une tasse de lait pour le petit. Tenez, voilà justement le mien que je n'ai pas encore touché. Chauffez-vous et laissez-moi le marmot. J'en ai eu, moi, dans le temps. Je sais comment ça se manipule. Il a une crâne mine, le vôtre. Quoi? Vous ne lui avez point mis de souliers? Je n'en ai point, soupira la pauvre femme. Attendez donc, j'en ai une paire, là, qui va faire l'affaire. » Et le vieil ouvrier, au milieu des protestations et des remerciements de la mère, alla chercher les souliers qu'il avait regardés la veille et les mit aux pieds de l'enfant. Il lui allait admirablement. Martin étouffa un soupir, cependant, en se séparant de son chef-d'œuvre, de ce qu'il avait fait de mieux dans sa vie. « Bah, se dit-il, je n'en ai plus besoin pour personne, maintenant. » Et il revint auprès de la fenêtre, et se mit à regarder d'une façon si anxieuse que la jeune femme en fut surprise. « Qu'est-ce que vous regardez là ? » interrogea-t-elle. « J'attends mon maître, » répondit Martin. La jeune femme ne comprit pas ou ne se soucia pas de comprendre. « Connaissez-vous le Seigneur Jésus ? » lui demanda-t-il. « Certainement, » répondit-elle en faisant le signe de la croix. « Il n'y a pas si longtemps que j'ai appris mon catéchisme. » « C'est lui que j'attends, » reprit le vieillard. « Et vous croyez qu'il va passer par là ?»«
Il me l'a dit. »«
Pas possible. »«
Oh, que j'aimerais rester avec vous pour le voir, moi aussi, si c'est vrai. »« Mais vous devez vous tromper. »« Et puis, il faut que je m'en aille pour être reçu à l'hôpital. »«
Savez-vous lire ?» dit le cordonnier.
« Oui. »«
Eh bien, prenez ce petit livre, » reprit-il en lui mettant dans les mains un fragment de l'Évangile. « Lisez-le attentivement, et ce ne sera pas tout à fait comme si vous le voyiez. » Mais ce sera presque la même chose, et peut-être le verrez-vous plus tard. » La jeune femme prit le livre d'un air de doute, s'éloigna en disant merci, et le vieillard reprit son poste auprès de la fenêtre. Les heures succédaient aux heures, les passants aux passants. Le petit poêle ronflait toujours, et Martin, dans son fauteuil, regardait encore dans la rue. Le maître ne paraissait pas. Il avait bien vu passer un jeune prêtre, aux cheveux blonds, aux yeux bleus, justement comme on représente le Christ dans les tableaux d'église. Mais en passant tout près de son échoppe, le prêtre avait murmuré « Mea culpa !» Évidemment, le Christ ne se serait point accusé lui-même. Ce ne pouvait être lui. Les jeunes gens, les vieillards, les marins, les ouvriers, les ménagères, les grandes dames, tout ce monde passa devant lui. Bien des mendiants supplièrent le brave homme. Son bon regard semblait leur promettre quelque chose. Ils ne furent pas déçus. Cependant, le maître ne paraissait pas. Ses yeux étaient fatigués. Son cœur commençait à défaillir. Les jours passent vite en décembre. Déjà l'ombre s'allongeait sur la place. Déjà l'allumeur du réverbère paraissait au loin. Déjà les fenêtres d'en face commençaient à briller joyeusement. Et le fumet de la dinde rôtie, le mets traditionnel des Marseillais, s'élevait de toutes les cuisines. Et le maître ne paraissait pas. Enfin, la nuit vint, accompagnée de brouillard. Il était désormais inutile de se tenir près de la fenêtre. Les passants, devenus rares, s'éloignaient dans la brume sans qu'on pût les dévisager. Le vieillard s'approcha tristement de son poêle et se mit à préparer son modeste souper. « C'était un rêve, » murmura-t-il. « Pourtant, je l'avais bien espéré. » Son repas achevé, il ouvrit son livre et voulut se mettre à lire. Mais sa tristesse l'en empêcha. « Il n'est pas venu, » répétait-il sans cesse. Tout à coup, la chambre s'éclaira d'une lumière surnaturelle, et sans que la porte se fût ouverte, l'étroite échoppe se trouva pleine de monde. Le balayeur de rue était là, la jeune femme avec son enfant était là, et chacun d'eux disait au vieillard « Ne m'as-tu pas vu ?» Derrière eux venaient les mendiants à qui il avait fait l'aumône, les voisins à qui il avait dit une bonne parole, les enfants à qui il avait adressé un bon sourire, et chacun lui disait à son tour « Ne m'as-tu pas vu ?»«
Mais qui êtes-vous donc ? cria le cordonnier à tous ses fantômes. Alors le petit enfant au bras de la jeune femme se pencha vers le livre du vieillard et de son doigt rose lui montra ce passage à l'endroit même où il l'avait ouvert. « Quiconque reçoit un de ces petits me reçoit. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Car en tant que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, vous me les avez faites à moi-même. »